Le Gabon et le Togo, les nouveaux adhérents au Commonwealth. Le 24 juin prochain, le Gabon et le Togo seront intronisés au Commonwealth, un acte symbolique avant tout. En début d'année, Ali Bongo Ondimba a annoncé un tournant géopolitique majeur par la nécessité d'appartenir à un autre espace multiculturel dans un monde globalisé. Le président du Gabon évoqua alors la demande d'adhésion de son pays au Commonwealth, une démarche qui a pris donc du temps et selon Africa Intelligence, c'est le 24 juin prochain, lors du sommet des chefs d'État à Kigali au Rwanda, que sera intronisé le Gabon qui lorgne sur une place dans l'organisation britannique depuis des années maintenant. Pour le Togo, en revanche, c'est allé beaucoup plus vite. C'est le 22 avril que le petit pays ouest africain a vu son Assemblée nationale voter une résolution qui exprime son soutien au processus d'adhésion du Togo au Commonwealth. Car la démarche d'Ali Bongo a, semble-t-il, inspiré fort Gnassingbé. Le Togo sera lui aussi intronisé la semaine prochaine. Deux adhésions qui interrogent si le Togo a une histoire coloniale plutôt originale. Ancien protectorat allemand devenu occupé conjointement par la France et le Royaume-Uni, le Gabon n'a pas grand-chose à voir avec l'Empire britannique. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, ces deux pays francophones ont décidé de se tourner vers le Commonwealth, ou plutôt de tourner le dos à la France. Et s'ils ne quittent pas la francophonie, Libreville et Lomé envoient cependant un message clair à Paris. La France ne brille plus autant qu'auparavant et ils veulent s'ouvrir au monde anglophone. Quels bénéfices vont tirer le Gabon et le Togo de leur adhésion, acceptée ce 12 juin au Commonwealth? Mais dans les faits, cela ne devrait pas apporter quoi que ce soit en matière d'échanges économiques ou de réduction des taxes douanières. Ces deux adhésions sont avant tout symboliques. Et pour un analyste politique ivoirien, aucune colonie francophone n'a pu se développer jusqu'à présent, contrairement aux pays anglo-saxons qui ont pu, un tant soit peu, prétendre à leur envol. Et si le Commonwealth ne permet pas de nouer des accords commerciaux, il sera sans doute intéressant de voir comment vont évoluer le Gabon et le Togo après leur entrée dans l'organisation, ou plutôt leur détachement avec la France. Un message clair envers la France, certes, mais un moyen peut-être pour son maître Washington de forcer son entrée dans ces pays. Toujours dans leur politique de colonisation de l'Afrique, les États-Unis ont décidé mercredi à étendre leur influence au Togo au plan sécuritaire afin d'aider, selon eux, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est depuis peu confronté aux attaques terroristes qui ont déjà fait plusieurs morts et blessés. Déjà partenaire du Togo sur des questions relatives à la sécurité, donc la promotion de la paix, la piraterie maritime, entre autres, l'Amérique envisage de renforcer donc la collaboration, surtout avec l'extension du terrorisme vers les pays côtiers. En tournée régionale sur le continent, le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain, Michael Gonzalez, a abordé le sujet mercredi avec le Premier ministre togolais. L'entretien auquel donc a également participé la nouvelle ambassadrice a permis aussi d'évoquer d'autres sujets comme le programme de digitalisation de l'administration, l'amélioration du climat des affaires et les prochaines élections régionales. À l'issue de son conseil des ministres du mercredi 8 juin, le gouvernement togolais a adopté un décret qui instaure l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Ces décisions prises après les deux attaques terroristes perpétrées dans cette partie septentrionale du pays en l'espace de 6 mois, donc 10 au 11 novembre 2021 et 10 au 11 mai 2022, contre le dispositif de l'opération Kunjoare, est entré en vigueur depuis le lundi 13 juin. En rappel, les attaques terroristes au Togo et au Bénin ne servaient qu'à mettre la pression sur ces deux pays. Et visiblement, le Bénin a préféré se tourner vers la Russie, mais rien ne s'est encore vraiment concrétisé. Concernant le Togo, Washington voudrait également que ce pays devienne une base arrière militaire pour pouvoir non seulement avoir une mainmise sur le golfe de Guinée, mais également sur les autres pays comme par exemple le Nigeria ou encore le Burkina Faso. Depuis un certain temps, les États-Unis tentent de combler les échecs de la France et ne pas laisser les pays d'Afrique se tourner vers le bloc de l'Est, comme par exemple la Russie. Et après l'échec de la France dans le Sahel, Paris va finalement se replier au Niger, laissant alors les pays de la côte aux mains de Washington. Les États-Unis ont visiblement l'intention de prendre l'Afrique tout entière, mais de plus en plus de pays d'Afrique œuvrent pour mettre un terme au colonialisme des pays occidentaux, ce qui veut dire que s'ils se détachent de la France, Ce n'est pas pour faire venir Washington pour prendre sa place. Les autorités de la République centrafricaine font toujours des efforts importants afin d'établir la paix et la sécurité dans toutes les régions du pays. La sécurité était toujours et reste d'ailleurs la principale préoccupation du gouvernement du président Touadéra, à laquelle les autorités répondent avec succès. Partout en Centrafrique, les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police augmentent leurs effectifs, apportent ainsi la paix et la stabilité au peuple centrafricain. À cet égard, le porte-parole du gouvernement, s'exprimant donc récemment sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, a souligné qu'il ne subsiste plus aucun groupe armé organisé et uni par une sorte de structure organisationnelle en Centrafrique. Aujourd'hui, la mission principale du gouvernement est plutôt de faire face à des groupes de bandits désorganisés qui persistent après l'effondrement des principaux groupes armés. Il persiste toujours des attaques occasionnelles dans certaines régions par de petits groupes armés qui visent les villages et les personnes à la recherche de nourriture. Une question importante concernant cette situation se pose. Sans structure organisationnelle, où ces criminels obtiennent-ils leurs armes? Selon une enquête sur les rapports locaux reçus en mai dans certaines zones, l'activité des bandits est soutenue par le contingent de la MINUSCA. En début mai, par exemple, des vols continus effectués par des drones de la MINUSCA ont été signalés dans la ville de Dimbi, la préfecture de la Basse-Kotto. La population locale en était extrêmement préoccupée et elle avait raison. Le même jour, dans la soirée, les habitants ont remarqué qu'un groupe de 50 bandits avançait vers Alindao, toujours dans la préfecture de la Basse-Kotto. Outre cela, certains habitants de Gakobo, également relativement proches d'Alindao, ont signalé le 12 mai qu'ils avaient vu des casques bleus livrer des armes aux bandits. Ils ont également confirmé que les casques bleus fournissaient régulièrement des informations aux rebelles de la région et cette coopération permet donc aux rebelles de quitter leur base dans la brousse au moment où l'armée nationale lance des opérations de ratissage, empêchant ainsi les FAKA de remplir leurs fonctions. Enfin, les habitants de Bambari dans la préfecture de Waka ont été confrontés au même problème au début du mois de mai. Ainsi, le 12 mai, plusieurs habitants ont rapporté avoir été témoins de la coopération du contingent de la MINUSCA avec des bandits auxquels les casques bleus ont en cachette fournit des armes et des munitions pendant plusieurs nuits d'affilée. Enfin, le fait que certains contingents de la MINUSCA fournissent des armes aux bandits constitue également un obstacle à l'établissement complet de la sécurité dans les régions et notamment dans l'arrière-pays. Un autre problème est que le gouvernement est contraint par l'embargo sur les armes et ne peut donc pas fournir davantage d'armes aux FAKA alors que les bandits s'approvisionnent tranquillement et continuellement en armes par des voies illégales, y compris des armes provenant de l'ONU. Comme le montrent les enquêtes précédentes et les témoignages des rebelles qui ont déposé les armes, les soldats de l'ONU échangent des armes et des médicaments contre de l'or et des diamants pour leur propre enrichissement au détriment de la sécurité des Centrafricains. Depuis le début du conflit entre la RDC et le Rwanda, le jeu trouble des Occidentaux laisse à penser que ce conflit leur sert de justification pour s'implanter militairement dans la région. Avec d'un côté les États-Unis qui prennent part pour la RDC, son supplétif, donc la France, prend part pour le Rwanda. La lune de miel donc entre Kigali et Paris se poursuit donc après donc la réconciliation politique entre Paul Kagame et Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont décidé d'entamer une coopération dans le domaine de la défense autour de dialogues stratégiques et de la formation. C'est une révolution. La France est sur le point d'envoyer un attaché de défense à Kigali. Le nom de ce colonel n'est toutefois pas encore dévoilé, mais il prendra ses fonctions au mois de juillet à l'ambassade de France et il sera accompagné d'un officier adjoint. Emmanuel Macron avait annoncé le 27 mai 2021 le retour d'un ambassadeur français au Rwanda lors d'un déplacement à Kigali, marquant donc une normalisation des relations entre les deux pays. Le poste était inoccupé depuis 2015 en raison des tensions bilatérales liées au procès sur l'assassinat du président Habyarimana, dans lequel des proches de Kagame et Kagame lui-même étaient visés. Ce procès est aujourd'hui clôturé, évidemment, et de son côté, comme un accord, le Rwanda a renoncé à toute poursuite judiciaire contre les militaires français ayant participé aux différentes opérations au Rwanda, notamment l'opération Turquoise. Le Rwanda est un pays qui pèse sur le continent africain et plus particulièrement donc en Afrique centrale et de l'Est, confié à un haut gradé français. Nous avons aujourd'hui une vraie volonté de travailler ensemble, même si les militaires rwandais ne vont pas se jeter dans nos bras et vice-versa. À Paris, on considère que l'armée rwandaise est bien commandée, redoutablement efficace et capable de se projeter rapidement en dehors de ses frontières, comme récemment en Centrafrique et au Mozambique. Des éloges envers Kigali, alors que tout le monde le sait, l'intervention de l'armée rwandaise en Centrafrique et au Mozambique n'a pas vraiment été du goût de la France et des États-Unis. Mais en attendant, le processus de déstabilisation de la région, et particulièrement de l'Est de la RDC, continue, mais peine à aboutir. Hier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé des mensonges et des messages de haine conçus par les officines, donc à Kigali, capitale du Rwanda, avec l'aide des Occidentaux, afin de se distiller dans les réseaux sociaux, avec pour objectif de faire croire aux yeux du monde qu'il se pratique une chasse à l'homme en RDC. Pour l'armée congolaise, cette manipulation du Rwanda ne va pas le faiblir dans sa traque du M23. Et à travers cette mesquinerie démoniaque que Kigali veut attribuer à la population congolaise, l'objectif poursuivi est de tromper, comme il le fait à l'accoutumée, et d'entraîner ainsi une partie de la population congolaise à tomber dans le piège de la stigmatisation, faisant ainsi le jeu de l'ennemi. Autrefois, recette rwandaise ayant ému le monde, cette ruse démoniaque séparatiste, ingéniosité maléfique de Kigali, ne fragilisera ni la détermination des braves officiers congolais, dangereusement cité dans un chiffon séditieux en circulation dans les réseaux sociaux, et n'entamera nullement le professionnalisme des FARC, totalement résolus à protéger l'intégrité territoriale du pays jusqu'au sacrifice suprême, conformément à notre serment de ne jamais trahir le Congo, a déclaré le général-major Léon Richard Kasonga, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, les FARC vendent la riche diversité culturelle que regorge la RDC et promettent des sanctions exemplaires contre toute personne qui menacerait des personnes, donc pour leur appartenance à une communauté. Les FARC tiennent en outre à préciser que la mosaïque congolaise est une richesse incommensurable qu'elle protège et que, conformément aux instructions du commandement suprême, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour traquer tout individu ou toute structure qui menacerait des personnes en fonction de leur appartenance à une communauté donnée. Au-delà des sanctions exemplaires, la justice militaire va se saisir des auteurs de tout acte susceptible de troubler la cohésion nationale, a-t-il conclu. Depuis le début des tensions entre Kinshasa et Kigali, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer le discours de la haine. Et face à cette escalade, la France a également appelé à la cessation des discours de haine visant donc des communautés et des individus. Le gouverneur du Sud-Kivu, donc dans l'Est, a indiqué dans un communiqué que, sur instruction de la haute hiérarchie du pays et compte tenu de la situation sécuritaire, tous les postes frontaliers avec le Rwanda seront à dater de ce jour fermés à 15h, heure locale. Lundi, le M23 a occupé Budangana, un important centre commercial situé à la frontière avec l'Ouganda, avec le soutien militaire du Rwanda, selon les autorités congolaises. Le président kényan Uhuru Kenyatta, donc, est président donc en exercice de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, a convoqué le troisième conclave des chefs d'État de cette organisation régionale sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La réunion donc se tiendra ce lundi même au State House à Nairobi à partir de 11h. Et Félix Tshisekedi quitte Kinshasa ce dimanche après-midi pour rejoindre la capitale kényane. Le peuple souffre depuis longtemps et continue de payer un prix excessivement élevé en pertes, en vies humaines, en biens et en paix insaisissables, dit la présidence kényane, qui rappelle la nécessité d'entretenir le bon voisinage. Donc, par ailleurs, des chefs militaires régionaux des sept pays de l'EAC ont rendez-vous dimanche afin de mettre au point les préparatifs pour le déploiement de la force régionale censée donc lutter contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Cette force conjointe est appelée à être active dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'Occident veut à tout prix tourner ce conflit à son avantage, projeté de déployer des bases militaires dans la région, donc Washington qui se déploierait en RDC et la France au Rwanda. Voilà le plan au final. Donc la paix dans la région n'arrange décidément ni la France ni les États-Unis. Et ces deux puissances coloniales jouent au jeu du bon et du mauvais flic, caressant la RDC et le Rwanda dans le sens du poil pour s'incruster dans la région. À croire que ce conflit est créé de toutes pièces, mettant en péril des civils congolais afin de mener à bien leur plan. Quoi qu'il en soit, les nombreuses manifestations des Congolais de ces dernières semaines ont bien montré la volonté de la population dans l'est de la RDC, à savoir vivre en paix une bonne fois pour toutes et sans voir les militaires étrangers d'occupation se promener dans leurs rues.
Gazoduc TSGP, une réunion tripartite Algérie-Niger-Nigeria à Abuja. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, effectuera les 20 et 21 juin courants une visite de travail à Abuja au Nigeria, lors de laquelle il prendra part à la deuxième réunion tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet du gazoduc transsaharien TSGP, indiqué dimanche un communiqué du ministère. Cette réunion, qui regroupera les ministres en charge de l'énergie des trois pays, s'inscrit dans le cadre de la reprise des discussions au sujet du projet du gazoduc transsaharien TSGP, précise le communiqué. Les ministres examineront l'état d'avancement des décisions prises lors de la précédente réunion et les prochaines étapes devant aboutir à la réalisation du projet, ajoute le ministère de l'Énergie et des Mines. Au Mali, au moins 20 civils ont été tués dans une attaque au nord de Gao. Au moins 20 civils ont été tués samedi 18 juin au nord de Gao, principale ville du nord du Mali, par des hommes armés. Selon les témoignages, des hommes armés ont débarqué à moto samedi dans la localité de Ebak et ses environs, des localités situées à quelques dizaines de kilomètres au nord de Gao, principale ville du nord du Mali. Les hommes armés ont descendu de leur engin, ont été rejoints par d'autres hommes armés et des coups de feu ont été entendus. Au moins 20 civils ont perdu la vie et 6 autres sont portés disparus. Les assaillants sont ensuite repartis avec du bétail appartenant à des habitants. Le lendemain, dans la crainte d'une nouvelle attaque, une partie de la population civile a pris la direction du sud. Épargné depuis plusieurs années, le Bénin est depuis peu dans le viseur des groupes terroristes. Plusieurs attaques ont été perpétrées sur son sol entre la fin 2021 et le semestre 2022. Des militaires ainsi que des civils ont perdu la vie. La question que certains se posent, c'est la capacité du pays à faire face à cette menace. Le ministre de la Défense, Fortuné Alain Nouattin, a apporté des réponses à cette interrogation ce jeudi 16 juin dans l'émission « Le gouvernement en action » sur la télévision nationale. Selon le ministre béninois de la Défense, l'armée béninoise est bel et bien en mesure de répondre aux menaces terroristes et de protéger efficacement la nation béninoise. Elle est dotée de moyens adoptés pour y faire face, assure le ministre de la Défense. En Côte d'Ivoire, Patrick Hachy lance les travaux d'un centre de formation au métier de l'énergie renouvelable à Yopougon. Le Premier ministre ivoirien a procédé vendredi 17 juin 2022 au lycée technique de Yopougon à la pose de la première pierre d'un centre de formation au métier de l'énergie renouvelable. S'inscrit dans le cadre de la quête de solutions pour l'insertion des jeunes, le projet de construction de ce centre de formation professionnelle est un jalon de plus dans la mise en œuvre du programme de Société Côte d'Ivoire solidaire fondé sur l'atteinte des objectifs de la vision 2030. Dans cette vision, le renforcement du capital humain, des talents et de la promotion de l'emploi constitue le pilier majeur du progrès que doit accomplir la Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Pour le chef du gouvernement, ce centre de formation va illustrer la volonté claire de son équipe et du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle une vraie alternative à l'enseignement général, mais surtout une passerelle très forte vers l'emploi durable.